des risques identifiés de défauts de puissance électrique dès 2030. En 2020, la France était le seul pays européen qui manquait ses objectifs d'intégration d'énergie renouvelable, INR, dans son mix énergétique, confère Infographie Le Monde ci-contre. En 2023, la France risque fort de manquer à nouveau ses objectifs de construction de nouvelles capacités d'INR fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPI. L'éolien terrestre et le photovoltaïque notamment, doivent progresser 3 et 6 gigawatts en 2023 pour atteindre leurs objectifs, décroissance annuelle de 50% pour l'éolien et supérieure à 200% pour le solaire par rapport à 2022, qui paraissent inatteignables. Notons toutefois que certaines filières, comme l'hydroélectricité ou le biométhane injecté, ont d'ores et déjà réalisé leurs objectifs fixés par la PPI. C'est dans ce retard pris par la France dans le développement de ses nouvelles capacités renouvelables et décarbonées que le projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables trouve sa raison d'être. Le texte visait à donner à la France l'occasion de rattraper ce retard en allégeant les procédures administratives, en accélérant le développement du solaire et de l'éolien en mer et en favorisant l'adhésion au projet au niveau local. Sa capacité à le faire demeure incertaine. Les maires ont par exemple obtenu la possibilité de déterminer des zones d'implantation prioritaires pour les éoliennes, qu'il suffira de prévoir en dehors des couloirs de vent. En revanche, cette loi ne couvre pas les solutions de flexibilité nécessaires pour compenser l'irrégularité, notamment saisonnière, de la production de ces renouvelables, et assurer la sécurité d'approvisionnement futur. Elle n'apporte pas non plus de mesures d'accélération spécifiques à l'éolien terrestre et pourrait donc entériner un frein dans le développement de cette filière, comme annoncé par le président de la République, en étalant l'objectif de doublement de la capacité actuelle sur 30 ans, au lieu de 10. Cet objectif revu à la baisse correspond au rythme de déploiement actuel. Il multiplierait donc les facteurs de risque dans un scénario d'offre réduite sans réduction concomitante de la demande. Par ailleurs, un texte de loi complémentaire est attendu pour planifier la construction de nouvelles capacités nucléaires. Il devra fixer des objectifs crédibles pour cette filière, à l'heure où le projet de nouvelle EPR de Flamanville accuse de nouveaux retards, et où le parc nucléaire existant connaît un niveau de disponibilité historiquement bas à cause de problèmes de corrosion. Dans ce contexte, il est légitime de poser la question de l'impact de retards chroniques sur les objectifs annuels de construction de nouvelles capacités. De nombreux scénarios de transition énergétique reposent en effet sur ces nouvelles constructions, et sur une demande croissante d'électricité, sur laquelle pèsent également des incertitudes. Pic de demande hivernale, nouveaux usages, politique d'électrification des usages existants, nombreux sont les facteurs qui peuvent impliquer une sollicitation plus importante du système électrique à moyen ou long terme. Une estimation rustique permet de se donner quelques ordres de grandeur. Si les rythmes de développement des principales énergies renouvelables permettaient de rattraper le retard actuel, atteinte des objectifs de la PPI en 2028, mais ne pouvait pas aller au-delà ensuite, rythme imposé par la PPI maintenu stable après 2028, alors il pourrait manquer jusqu'à 9 gigawatts de capacité, essentiellement de l'éolienne offshore, pour concrétiser le mix électrique prévu par Routière dans son scénario N2, mêlant de manière équilibrée les énergies renouvelables et le nouveau nucléaire. Notons d'ailleurs que ce mix équilibré minimise le nombre de nouvelles capacités à construire parmi les scénarios envisagés par Routière. Si les rythmes de déploiement étaient encore plus contraints, par exemple limités au rythme actuel, il manquerait à court terme une dizaine de GW d'INR, solaire et éolien terrestre, puis il pourrait manquer jusqu'à 23 gigawatts de capacité en 2050 par rapport aux prévisions du scénario N2, essentiellement des capacités nucléaires. Sur la période 2030-2040, les retards de capacité pourraient se concentrer sur le solaire et l'éolien terrestre. Sur cette période, des risques d'indisponibilité du parc nucléaire ne sont pas à exclure pour autant, mais ils concernent davantage le parc existant que les nouvelles constructions attendues principalement après 2040, même si des indisponibilités existent souvent en phase de lancement. Ces risques d'indisponibilité du parc nucléaire existant, problèmes de corrosion persistants ou non, prolongation de la durée de vie de certains réacteurs par exemple, n'ont pas été quantifiés dans cette note. À partir de 2040, la montée en puissance de ces filières INR, solaire et éolien terrestre, pourrait compenser le retard accumulé, mais se poserait alors la question de la mise en service de flexibilité suffisante pour compenser l'intermittence des INR, voir ci après. Par ailleurs, la montée en puissance du nouveau nucléaire et de l'éolien en mer paraît à ce jour insuffisante. Le défi d'accélération est immense, il suppose simultanément l'accélération de la validation des dossiers en amont, la disponibilité des ressources humaines formées sur l'ensemble de la chaîne de valeur, alors que cette filière n'a pas été suffisamment renouvelée, comme la capacité à mener, et plus encore à paralléliser des chantiers complexes opérationnellement. Or, sans accélération forte par rapport au rythme actuel, ces filières accuseraient des retards importants entre 2040 et 2050. En particulier en 2050, une quinzaine de GW de nouveaux nucléaires pourraient manquer. Cet écart est proche de celui qui sépare les trajectoires hautes, N2, et basses, N1, de routières, figure 1. Figure 1, trajectoire de développement de nouvelles tranches nucléaires, nouveaux EPR2, futures énergétiques 2050, routières, 2022. De plus, la capacité de production renouvelable électrique à développer n'est pas entièrement pilotable, et reste largement dépendante des conditions météorologiques. La capacité française à assurer la sécurité d'approvisionnement dépendra donc du développement approprié de nouvelles solutions de flexibilité et de stockage. Routière développe ses solutions de flexibilité de manière intensive dans la majorité des scénarios des futurs énergétiques 2050, les stations de pompage hydraulique se développent sur la plupart des sites européens capables d'en accueillir, les excédents d'électricité renouvelable sont utilisés pour produire de l'hydrogène par électrolyse, power to gas, et le pilotage de la demande, effacement, report de consommation, se développe à court terme. Le scénario N2, qui nécessite là encore le moins de nouvelles capacités de flexibilité du fait de l'équilibre nucléaire INR, requiert tout de même la mise en place de plus de 20 gigawatts de flexibilité dès 2040. La technologie de Power to X et les flexibilités de la demande industrielle en composent une grande partie. Il s'agit aujourd'hui de technologies non éprouvées. Seul l'effacement industriel a apporté une flexibilité significative aujourd'hui, mais un changement d'échelle de cette solution pose question, l'activité industrielle en serait perturbée, avec un risque de destruction de demande, baisse durable de l'activité industrielle, accrue. De même, le recours récurrent à l'interruption de la production d'hydrogène du futur parc d'électrolyseurs impacterait négativement la rentabilité de cette activité. En somme, la flexibilité par la consommation ne constitue pas une solution durable pour couvrir les pointes de consommation, notamment saisonnières. Encore moins dans des situations où il y a un risque d'indisponibilité des capacités de production d'électricité, risque de retard de mise en service ou, comme aujourd'hui, moindre disponibilité du parc nucléaire. Dans ces situations, une spirale de prix élevés et de désindustrialisation ne saurait qu'être aggravée par des interruptions visant à équilibrer le réseau électrique. Par ailleurs, les rythmes de développement des flexibilités prévus par le scénario N2 en 2040 et au-delà peuvent questionner par leur réalisme, plus de 1 gigawatt par an, rythme similaire à celui de l'éolien terrestre aujourd'hui, ils paraissent trop ambitieux pour des technologies non éprouvées à grande échelle, batterie, pilotage de la charge et décharge des flottes de véhicules ELEC. D'autant plus qu'à court terme, d'ici 2030, France Stratégie souligne que les rythmes de développement de ces flexibilités sont encore incertains. Les systèmes électriques européens étant interconnectés, c'est aussi à cette échelle qu'il faut s'intéresser au dimensionnement des capacités de production et des solutions de flexibilité associées, elles sont déterminantes pour la sécurité d'approvisionnement. Ainsi, le scénario N2 de routière prévoit le développement de près de 25 nouveaux GW d'interconnexion avec nos pays transfrontaliers. Or, dans les prochaines années, la plupart des gouvernements européens envisagent de décommissionner d'importantes capacités de production pilotables. D'ici 2035, ce sont 80 gigawatts de puissance pilotable qui pourraient être retirés du réseau interconnecté reliant la France à ses pays frontaliers, du fait de fermetures programmées de centrales à charbon et nucléaires. Aussi, la France ne pourra pas toujours compter sur ses capacités d'interconnexion pour boucler l'équilibre offre-demande, sachant que ses voisins européens partagent ces mêmes enjeux grandissants de dépendance aux conditions climatiques et de moindre pilotabilité de la production d'électricité. Dans les territoires de nos voisins européens, la question de la sécurité énergétique se pose aussi de façon plus prégnante. En conclusion, si les rythmes de mise en service des capacités de production d'électricité n'augmentent pas fortement, 10 à 20 gigawatts de capacité, principalement pilotables, pourraient manquer à l'horizon 2050 par rapport au scénario de routière N2 qui prévoit le moins de nouvelles capacités. Dans ce scénario, les retards de mise en service d'INR pourraient être moins importants, potentiellement quelques GW en 2050 pour l'éolienne offshore, mais des doutes pèsent sur les moyens de flexibilité qui seraient mobilisés pour compenser l'intermittence de ces INR. La flexibilité par la consommation ne constitue pas une solution durable pour couvrir les pointes de consommation, notamment saisonnières, encore moins s'il existe des tensions sur la disponibilité des capacités de production, risque de spirale de désindustrialisation. Parallèlement, dans tous les scénarios de routière, d'autres solutions de flexibilité doivent être déployées de façon massive. Dans la mesure où il n'y a pas de retour d'expérience de déploiement à grande échelle de ces solutions, il convient d'envisager des aléas. En somme, il paraît raisonnable d'envisager que les 20 gigawatts de flexibilité prévus ne seraient pas mobilisables, ou uniquement de façon transitoire et pour des équilibrages du réseau de très court terme, mais pas pour compenser l'intermittence plurijournalière ou saisonnière des INR. Enfin, nos voisins européens réduisent, eux aussi, la part des énergies pilotables dans leur mix électrique de façon massive, moins 80 gigawatts à l'horizon 2035. Il est donc vraisemblable que les 25 gigawatts de nouvelles interconnexions prévues entre la France et ses voisins ne pourront pas être exploitées au maximum de leur capacité lors des épisodes climatiques défavorables, par exemple, lors d'épisodes de Dunkelflaut, bien connus en Allemagne, caractérisés par de faibles productions éoliennes et solaires, combinées à une consommation d'électricité élevée en hiver. 2. Une maîtrise suffisante de la demande n'est pas assurée, générant un risque de besoin de production additionnelle. La France accuse aujourd'hui un énorme retard en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Pour atteindre un parc dit de bâtiments basse consommation énergétique, ou BBC, comme le demande la SNBC à l'horizon 2050, la rénovation d'au moins 1% du parc par an est nécessaire dès aujourd'hui, puis près de 2% d'ici à 2030. Or, selon une analyse du Haut Conseil du Climat, seuls 0,2% des rénovations entreprises entre 2012 et 2016 seraient des rénovations globales satisfaisant les critères BBC. En conséquence, la consommation énergétique finale de chauffage toutes énergies confondues, corrigée des aléas climatiques, dans les secteurs résidentiels et tertiaires n'a pas baissé de 2000 à 2020. Ainsi, une multiplication des efforts par un facteur 5 est nécessaire pour atteindre l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPI, à partir de 2023. Le rapport des perspectives gaz 2022 du service public du gaz et de ses opérateurs, GRGA, TEREGA, GRDF, SPEGN, modélise une variante de consommation détaillant l'impact d'actions de rénovation dont la performance serait divisée par deux dans le secteur du bâtiment par rapport aux hypothèses du scénario de référence qui aboutissent à un parc de bâtiments bas carbone, BBC, en 2050, conformément aux objectifs de la SNBC. Une telle variante se traduirait par une consommation d'électricité supplémentaire de 7 TWh par rapport à la trajectoire de référence en 2050, et par un impact sur la pointe électrique nette de 4 GW supplémentaires dans le cas d'un pic de froid hivernal similaire à celui de l'année 2012. Ce surplus de puissance est relativement faible car le mix énergétique pris pour référence par les opérateurs de réseaux de gaz est bien équilibré. Toutes énergies confondues, le surplus de puissance nécessaire serait alors de 13 GW. Ainsi, avec un scénario de référence reposant davantage sur l'électricité pour le chauffage des bâtiments, comme le prévoit la SNBC et le scénario de routière, une rénovation deux fois moins efficace conduirait probablement à des pointes de consommation d'électricité accrues de près de 10 GW. De façon analogue à l'horizon 2035, le rapport routière-ADEME sur la contribution du chauffage dans les bâtiments à la réduction des émissions de CO2 tire des conclusions similaires. Un retard sur le nombre et la qualité des rénovations entraînerait, selon l'étude, une augmentation de la consommation électrique de 8 à 14 TWh par an en 2035 ainsi qu'une augmentation de la pointe électrique en hiver de 6 à 9 GW, et des émissions de CO2 de 9 à 11 mégatonnes an, en fonction de la pénétration des pompes à chaleur dans le secteur. Par ailleurs, même avec des gains de rénovation significatifs, il ne faut pas exclure le risque d'effet rebond. Routière sous-estime à ce stade les effets rebonds liés à la rénovation. Les travaux d'évaluation des programmes d'efficacité énergétique gratuits aux États-Unis effectués par Michael Greenstone montrent que les crédits gratuits proposés sous l'administration Obama pour la rénovation des logements n'ont eu que peu d'efficacité pour un coût significatif. Seuls 15% des gens ont été réceptifs, 7,5% sont allés jusqu'au bout des travaux, avec des économies de 20% à peine sur leurs factures. Les travaux sur données françaises de Mathieu Glachan sont convergents. Ils estiment que le temps nécessaire pour amortir les travaux de rénovation dépasse le siècle. Cet effet contre-intuitif repose sans doute à la fois sur la qualité insuffisante des travaux et sur l'importance de l'effet rebond. Des ménages se chauffant mal accèdent grâce à eux au bien-être, compensant pour partie les baisses de consommation permises par la rénovation. Cet effet est largement sous-estimé dans l'actuelle stratégie nationale bas carbone, SNBC, qui ne l'anticipe pas. En s'appuyant sur la performance attendue par la SNBC, les travaux de routière minimisent à ce stade le besoin d'énergie notamment lors des épisodes de froid. La mise à jour à la fin du printemps de ces scénarios conduira sans doute à une réévaluation du besoin de moyens à la pointe. Enfin, Toute politique qui accentuerait la trajectoire d'électrification des usages par rapport au scénario de référence mentionné dans la première partie, scénario de consommation des futurs énergétiques 2050, routière, accentuerait aussi l'écart que nous avons identifié avec le développement de l'offre. Une politique d'interdiction de renouvellement des équipements gaz dans le bâtiment à court terme, par exemple, aurait pour conséquence de réduire la consommation de gaz dans le bâtiment, mais également le transfert rapide de plusieurs millions de consommateurs de gaz vers le vecteur électrique. En France, une politique de non-renouvellement des équipements gaz pourrait, si elle était initiée, rehausser la pointe électrique hivernale de 10 à 20 gigawatts en 2040 et en 2050. Il est important d'insister sur un point. Ces estimations se fondent sur des hypothèses de rénovation des bâtiments ambitieuses, tout écart qui conduirait à des baisses moins importantes des besoins de chauffage accentuerait encore l'impact sur la pointe électrique. Concrètement, la dizaine de GW liée au risque de rénovation moins performante et les 10 à 20 gigawatts de pointe supplémentaires liées à une conversion du parc de chaudières gaz peuvent se cumuler. Ces informations sont à mettre au regard de la disponibilité future des capacités de production du parc électrique français évoqué plus haut, et du rythme de développement des solutions de flexibilité capables de répondre à des variations, saisonnières ou moyen terme, de demande d'électricité et des tensions sur l'offre, de plus en plus intermittentes. À cet égard, il est intéressant de souligner encore que des situations défavorables peuvent tout à fait se cumuler pour creuser l'écart entre la demande et la disponibilité de l'offre d'électricité. 10 à 20 gigawatts de capacité de production à l'horizon 2050, principalement pilotable, nucléaire, indisponible dans le cas du scénario N2 retardé. 20 gigawatts de capacité de flexibilité à l'horizon 2050, indisponible ou limité à des périodes transitoires et des équilibrages réseau de très court terme. Une part des 25 gigawatts de nouvelles interconnexions, qui pourraient être indisponibles ou intermittentes, du fait du décommissionnement de moyens de production pilotables chez nos voisins, 80 gigawatts à l'horizon 2035. 10 gigawatts supplémentaires aux heures de pointe en hiver en cas de rénovation moins performante des logements dès 2035, puis, à l'horizon 2050. 10 à 20 gigawatts supplémentaires aux heures de pointe en hiver en cas d'interdiction de renouvellement des chaudières au gaz, horizon 2040 et 2050. Au total, les écarts offre-demande pourraient, s'ils se cumulaient, atteindre 30 à 50 gigawatts lors des pointes hivernales, voire bien davantage, jusqu'à 45 gigawatts supplémentaires, si les interconnexions avec les pays voisins ne sont pas mobilisables, épisode de Dunkelflaute flotte sur la plaque européenne, ou si des solutions de flexibilité plurijournalière et saisonnière ne permettaient pas de compenser l'intermittence de la production des INR. Ces écarts représentent la capacité production de plusieurs dizaines de réacteurs nucléaires. 3. La prise en compte du risque d'approvisionnement des industries et des ménages. La prégnance du risque d'approvisionnement électrique amène à formuler plusieurs recommandations. Il est naturellement indispensable de développer toutes les énergies renouvelables et bas carbone le plus vite possible, non seulement électriques mais également thermiques, l'électricité n'ayant vocation à couvrir que 50% des usages à terme. Le défi technique de la transition est tel qu'on ne peut redouter un excès d'énergie bas carbone, cela n'aurait comme conséquence que de permettre de disposer d'énergie bon marché et d'accélérer la transition écologique. Et il demeure nécessaire de déployer rapidement les efforts d'efficacité énergétique, choix des meilleurs appareils, et surtout de sobriété qui permettront de limiter la demande à un niveau compatible avec les limites planétaires, sans changement de société, les objectifs de transition ne seront pas atteints et le système énergétique n'arrivera pas à faire face. Il faut toutefois, au-delà de ces recommandations classiques, s'assurer de la concordance de la montée en charge des usages et de la production, par exemple en s'assurant que le déploiement massif des nouveaux usages souhaitables, véhicules électriques légers, pompes à chaleur, n'anticipe pas trop la production attendue donc ne conduise pas à déployer en urgence des moyens de production carbonée alors même que la société vient de réinvestir dans de nouveaux appareils. Pour ce faire, il demeure indispensable de consacrer les moyens électriques renouvelables et bas carbone additionnels à ce qui permet d'abattre le plus de carbone, remplacer le pétrole des véhicules, comme l'électricité fortement carbonée importée désormais structurellement d'Allemagne par des moyens bas carbone demeure à ce stade le meilleur usage pour la planète. Il convient en outre de dérisquer la transition en prévoyant autant que possible les systèmes qui permettent d'éviter la constitution de pointes additionnelles de consommation électrique, notamment l'hiver. La réussite de la rénovation thermique des logements demeure cardinale. Son échec mettrait sans doute sous tension la capacité à produire suffisamment d'électricité pour répondre à la demande en période de froid. On pourrait donc prévoir par défaut que les maisons s'équipent de pompes à chaleur hybrides, pompes à chaleur se reportant au moment des grands froids vers le gaz. Cela pour éviter la construction de centrales gaz au rendement thermique de 40% pour couvrir un besoin saisonnier d'électricité en cas de froid, alors que le choix de la pompe à chaleur hybride, au coût identique à un appareil classique, permet de consommer beaucoup moins de gaz. On pourrait de même encourager les micro-cogénérations et toutes les solutions qui apportent de la flexibilité au système électrique. Les politiques ont désormais à l'échelle européenne fixé un programme ambitieux de décarbonation. La politique est aussi un art d'exécution. L'heure est désormais à l'invention du chantier de transition qui permettra d'éviter que ce changement indispensable ne se fasse aux dépens de la cohésion sociale et de la qualité de vie des habitants.